Soirée autour de ta parole pour pouvoir trouver les mots, les choses qui donnent la vie, qui nous donnent de vivre mieux, qui te glorifient et qui nous séparent de ce monde. Merci Seigneur Jésus de nous aider à bien comprendre afin que nous puissions faire ta volonté encore plus précisément. Dans le nom de Jésus, amen. On va chanter « Je t'aime, c'est vrai, je t'aime » avec le violon. Dominique m'a soumis une question et j'ai pensé à cela, j'ai réfléchi, j'ai prié et ce soir, ça m'a inspiré un message. Alors, c'est bien, non? On va lire dans Matthieu chapitre 8 et versets 1 à 13, s'il vous plaît. Non, c'est 5 à 13. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia, disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai. » L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Part », et il part, à un autre « Viens », il vient. Et à mon esclave « Fais ceci » et il le fait. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qui a rendu Jésus plein d'admiration pour cet homme? Eh bien, premièrement, je ne crois pas que c'est parce que ce Romain croyait que Jésus pouvait guérir les malades. Je ne pense pas que c'est ça. Je ne pense pas que c'était aussi parce qu'il pensait que Jésus avait le pouvoir de guérir à distance. Parce que vous avez des gens qui disent il faut absolument qu'on leur impose les mains, parce que si c'est à distance, ce n'est pas la même chose. Bon. Non, moi je crois sincèrement que Jésus admira à la fois ce centurion, parce que ce centurion avait une révélation, celle que Jésus était lui-même soumis à une autorité. Ah, ça c'est intéressant. Et Jésus s'est saisi de ça pour piquer au vif les Juifs qui se trouvaient là. Et il leur rappelle que Dieu a choisi Abraham, il a choisi Isaac, il a choisi Jacob. Jacob, on le sait, est devenu Israël. Mais nous le savons aussi, chose que les Juifs à l'époque n'avaient pas entendue, parce que c'est l'apôtre Paul qui ira le dire, tout Israël n'est pas Israël de Dieu. Alors, on va regarder un peu ce que c'est que Israël. La première fois qu'on trouve le mot Israël en dehors de la Bible, c'est sur une stèle, la stèle du pharaon Merneptah. C'est un petit peu comme un éternuement. Hein? Et sur cette stèle, on apprend la présence de clans qui étaient issus du patriarche d'Israël. Et puis alors, bon, on a le récit que nous fait la Bible au sujet de Jacob qui se bat avec Dieu. Et Dieu lui dit, tu t'es battu avec des hommes, tu t'es battu avec Dieu et tu l'as emporté. Et Jacob reçoit là le nom de Israël et les confusionne. Et dans Genèse, on voit que Dieu se révèle très attaché à ce peuple formé de clans. Et en fait, on voit aussi qu'il est contraint de le bénir. Hein, Israël s'est battu avec Dieu et il l'a emporté. Il le bénit, mais il y a quand même des conditions. Israël ne sera béni que s'il est fidèle à porter le nom de Dieu, fidèle à sanctifier le nom du Seigneur, fidèle à écouter la parole de Dieu. On trouve ça dans Deutéronome 6, 4. Et Israël, ce ne sont pas que les gens du peuple. Dans la Bible, on voit aussi que Israël, c'est la terre. La terre, ce qu'on appelle la terre promise. Osée parle très bien de ça. Vous lirez Osée chapitre 2, vous allez voir, c'est une forme de parabole au sujet d'Israël, qui est la fille en même temps que la mère. C'est très très beau. Israël, c'est souvent aussi les 10 tribus du Nord, hein, alors que celles du Sud sont appelées tribus de Juda. Là, c'est Juda, le Sud. Et quand Jésus arrive sur la terre, alors il se consacre aux brebis perdues d'Israël. Matthieu 5, 24. Et les apôtres, dans un premier temps, alors que Jésus est encore sur la terre, ils sont envoyés vers Israël. On trouve ça dans Matthieu 10, verset 6. Israël, Israël, Israël. Et Jésus est crucifié en tant que roi d'Israël aussi. Et puis, la première prédication qui est faite, c'est par l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Et c'est aux hommes d'Israël aussi qu'elle est faite, n'est-ce pas? Et puis, voilà que Paul entre dans l'histoire. Alors là, ça prend une autre dimension. Lui, Paul, il est très attristé de voir l'incrédulité de ses frères de race, donc Israël. Et Paul reçoit la révélation qu'il y a deux Israëls. Il y a l'Israël historique, qu'il va appeler l'Israël selon la chair. On trouve ça dans 1 Corinthiens 10, 18. Et puis il y a l'autre, l'Israël de Dieu. Et Paul affirme que le vrai Israël de Dieu, en fait, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et Jean, ensuite, sur l'île de Patmos, il va contempler la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux, elle a 12 portes, et sur ces 12 portes sont gravés les noms des 12 tribus d'Israël, encore une fois de plus, c'est l'épouse de Christ. Alors, qui sont ces fils du royaume qui vont être jetés dehors? Qui sont-ils? Le mot « fils » dans les Écritures même, on peut dire pas seulement dans les Écritures, mais dans le langage sémitique, c'est souvent un peuple, ce sont les membres d'un peuple. En Afrique, par exemple, le mot frère, c'est pas la même chose que chez nous. Moi, j'ai un frère, il s'appelle Eric Janton, mais mes cousins ne sont pas mes frères. Hein? Voilà, mais chez les Noirs, c'est comme ça. Ils sont tous frères. Si tu habites le même village, c'est ton frère. C'est des fois très possible. Enfin, ça fait rire. Hein? Mais c'est les membres d'une même tribu. Ils vont s'appeler donc les fils d'eux, du même clan. Par exemple, on a cette expression « fils ». Dans 1 Roi 20 à 35 où il est dit les fils des prophètes. Est-ce que les fils des prophètes, ils avaient tous un papa qui était prophète? Non. Mais c'était le clan des prophètes, on les appelait les fils des prophètes. Vous voyez? T'es d'accord? Alors, dans les nouvelles traductions maintenant, à cause justement de la différence d'utilisation, les mots français, là, les façons de les employer ne sont pas les mêmes que les mots sémitiques. Alors, maintenant, on a traduit dans les nouvelles versions, on a marqué les membres de la communauté des prophètes, à la place des fils des prophètes. C'est beaucoup plus clair dans notre pensée, on comprend mieux. Parce que sinon, on pourrait penser, ah ben tiens, il y avait les fils des prophètes, c'était des pistonnés, parce que leur papa était prophète, alors eux aussi, un peu comme David Hallyday, qui est le fils de Johnny Hallyday, vous voyez. Non, mais c'est pas ça, hein? C'est pas ça du tout. Ils n'étaient pas pistonnés, ils n'allaient pas devenir prophètes parce que leur père était prophète. Dans 2 Samuel 7:10, on parle de fils d'iniquité. Vous savez ce que c'est que l'iniquité? C'est une injustice, ce n'est pas une personne. Est-ce que l'iniquité peut avoir des fils? Non, les fils d'iniquité, c'est le clan de ceux qui sont iniques. Vous voyez? C'est toujours pour bien faire comprendre ce que ça veut dire fils. Alors, c'est juste un terme auquel les langues sémitiques accordent une autre valeur, un sens plus large que dans la langue française. Je ne sais pas dans les autres langues ce que ça donne, parce que je ne parle que le français. Alors, qui sont ces fils du royaume qui sont rejetés? Ça, c'est important, parce qu'on pourrait se dire, tiens, alors, oui, bon, ben, d'ailleurs, le texte dit, ils avaient été destinés, hein, n'est-ce pas, là. Alors, s'ils sont destinés, voilà, ils ont perdu leur destinée. La prédestination, c'est pas sûr, on peut tomber, vous voyez, c'est grave. Hein? Alors, Jésus parle à des Juifs, là. Et ceux qui seront jetés dehors sont des Juifs qui ne sont pas d'Israël. Romains 9, 6 nous révèle quelque chose de très important à ce sujet-là. On va le lire, parce que c'est très important. Romains 9, 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu, peut l'air même un peu avant, on va lire à partir du verset 1, Romains 9, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, c'est-à-dire à la place de mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. » C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, béni, Dieu béni éternellement. Amen. Mon petit-fils qui revient d'Angleterre. Bonjour Lucas. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une grande descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Ah, il y a donc des fils de la terre d'Israël, des fils d'Israël, des fils du royaume, des fils de la terre, des fils du clan, qui sont biologiquement des fils d'Abraham, si vous voulez, mais spirituellement, ils sont délivrés. Ils sont délivrés. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? On n'est pas fils de Dieu, on n'est pas semence de Dieu, parce que nos parents biologiques sont fils de Dieu. Que vous soyez chrétien ou que vous soyez juif, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vos enfants vont être sauvés. Pas du tout. Ce n'est pas parce que vous êtes juif que vos enfants font partie de l'Israël de Dieu. Pas du tout. Dans les familles élues, il peut y avoir des fils du diable, il peut y avoir de l'ivraie. Que ce soit dans une famille élue juive ou dans une famille élue non juive, c'est comme ça. Alors qui peut juger si un tel est fils spirituel de Dieu ou pas? Eh bien personne, on en revient toujours là, personne ne peut juger. Jésus seul pouvait juger comme cela. Et un jour, il a même dit à des religieux juifs qu'ils avaient le diable pour père. Est-ce que quand on a le diable pour père, on peut changer de père par la conversion? Non. Quand on a un père, c'est pour la vie. Et oui. Je répète toujours cette chose parce que c'est tellement évident. Mon père biologique, c'est Charles Janton. Je peux faire les pieds au mur, tout ce que vous voulez. Ça ne sera jamais papa Boisset. Jamais. Vous comprenez? Et bien, Dieu emploie le mot père justement pour qu'on comprenne ces choses-là. En dehors de Jésus, personne ne peut juger à savoir si vous êtes ou pas un fils de Dieu. Personne. Il y a des élus de Dieu, des fils de Dieu, du bon grain de Dieu que Dieu a semé. Rappelez-vous la parabole, Dieu est sorti, a semé. Hein? Et dans tous les âges de l'humanité, il y a des fils de Dieu, des élus de Dieu, dans tous les peuples, de toutes les races, il y a des fils de Dieu, il y a des filles de Dieu, il y a des enfants de Dieu, il y a du bon grain. Dans toutes les familles, il y en a, ça c'est certain. Et le bon grain pousse avec l'ivraie. C'est tout. C'est tout. Là, Jésus, il pique les juifs incrédules qui l'écoutaient et il leur dit, ce Romain a plus de foi que vous et même que de tous les juifs que j'ai vus. Il pique aussi ses disciples. Il pique aussi ses disciples. Non seulement il a la foi, mais il a la connaissance. Il sait que je suis sous l'autorité du Père. C'est fantastique. C'est un homme vraiment spirituel et intelligent. Et Jésus sur terre, parce que vous en avez, ils n'ont encore pas compris ça non plus, hein. Jésus sur terre, il était soumis, mis en dessous du Père. En cela, il était limité, puisqu'il s'était, il est, dans sa création, il s'est volontairement limité, il a quitté son ciel de gloire, il est venu et il se soumettait au Père. Il dit, je ne fais jamais rien sans avoir vu cela au Père. Il priait le Père, il demandait à Dieu, il dit, je ne sais ni le jour ni l'heure, il était mis sous l'autorité du Père. Et après sa résurrection, après son ascension, Jésus-Christ a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances. Mais ce n'est pas tout ça. 1 Pierre 3,22. Tout ne lui a pas encore été soumis. Et aujourd'hui encore, tout ne lui est pas soumis. Jésus le Fils, c'est ce qui fait dire à certains qu'il y a une trinité. Vous voyez, une bien différence entre le Père et le Fils. Non, c'est dans la nature des choses. Dieu le Père est tout puissant, absolument tout puissant. Jésus-Christ est Dieu le Père dans la création, donc obligatoirement limité puisqu'il est dans la création. Il est dans un corps à une place à la fois. Ils ne veulent pas croire ça, ils veulent être religieux et croire. Alors ils aiment bien dire Jésus tout puissant. Oui, bien sûr, le nom de Dieu c'est Jésus et il est tout puissant. Mais il ne faut pas oublier que pour le moment il est encore dans la création Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils disent qu'il y a une trinité, parce qu'ils le voient assis à côté du Père. C'est vrai. Mais un jour viendra, le jour vient, où tout lui sera soumis. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 28. Et là, il faut être au moins comme le Romain pour pouvoir comprendre ça, et non pas comme les Juifs bornés qui voulaient absolument avoir raison et qui disaient que Jésus avait tort et qui ainsi l'insultaient. Il y a des degrés de gloire, mes frères et sœurs, il y a des degrés de puissance. Et Jésus, il est le prémisse en tout, il est le premier en tout. Et puis en dessous, il y a l'épouse. Nous aussi, tout est possible à celui qui croit. C'est vrai ou c'est faux? Tout. Est-ce que vraiment tout vous est possible? Oui, il le dit. Mais voilà, dans la réalité, nous devons quand même progresser. Oui ou non? On a des progrès à faire. On a des progrès à faire et même tous les progrès que vous pouvez faire. Si vous êtes une main, vous ne ferez jamais le travail d'une oreille dans le corps de Christ. Ah ! Et pourtant, tout est possible à celui qui croit. Et puis, il y a ceux qui sont mort-nés, c'est-à-dire, ceux-là aussi, ils auront une part de gloire. Mais étant donné qu'ils seront juste mort-nés, ou morts dans le ventre de leur mère à cause d'un avortement ou de choses comme ça, eh bien alors, ils n'auront pas le même niveau de gloire que nous, puisque nous aurons souffert, nous aurons vaincu, il y aura des récompenses, vous voyez mes frères et sœurs. Et puis il y aura aussi ceux qui seront morts avant d'avoir eu l'âge légal devant Dieu d'être responsables, c'est-à-dire avant leurs 12 ans. Et alors ceux-là, ils sont innocents d'après la parole de Dieu. Et puis il y a ceux qui ont reçu l'évangile selon 1 Pierre 4,6, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Et ça, vous le croyez pas, en quelque sorte, ça m'est égal. Moi, je crois ce que la Bible dit, et je ne peux pas écouter ce que tout le monde me raconte. Je crois ce que la Bible dit. Si la Bible dit que l'évangile est aussi prêché aux morts, afin qu'après avoir été jugés quant à la chair, ils peuvent être vivifiés par l'Esprit et se mettre à vivre par l'Esprit selon Dieu. Moi, je crois ce que la Bible dit, et même si ça ne fait pas partie de votre credo, mais ceux-là n'auront pas le même niveau de gloire que ceux qui auront combattu le bon combat de la foi. C'est normal. Par exemple, moi, je n'aurais pas le même niveau de gloire que T.L. Osborne. C'est normal. C'est normal. Vous voyez, mes frères et sœurs, il y a donc des degrés de gloire, de puissance. Et puis, alors, derrière, tout au fond, il y a livré. Alors là, ça, c'est rien pour eux. C'est la perdition, c'est la destruction, hein, comme notre frère Gilbert nous a si bien expliqué l'autre jour. Et puis ensuite, tout en bas, il y a les démons, le diable. Et toutes ces catégories n'ont pas le même niveau, le même degré de gloire, ni les mêmes degrés de puissance. Les démons sont des gloires déchues, et les humains qui ont quitté leur passé éternel alors qu'ils étaient déjà des esprits rebelles, ils sont devenus sur la terre des fils qu'on appelle des fils de perdition, c'est-à-dire qu'ils soient juifs ou non juifs, c'est des fils de perdition. Ils sont du clan de la perdition. Vous comprenez? Et ces gens-là, ces esprits-là, continuent à faire sur la terre ce qu'ils faisaient dans leur passé avant de venir dans la condition mortelle. Ils injurient les gloires, ils injurient Dieu, ils injurient les fils de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils sont destinés à être capturés comme des animaux, à être abattus, et parce qu'ils calomnient ce qu'ils ignorent. Ils ne savent même pas, ils ne se rendent même pas compte. Ils ne savent même pas. Ils mourront comme des bêtes. C'est ce que la Bible nous dit, c'est-à-dire, c'est vraiment. Ils recevront le salaire de leur injustice. Vous ne me croyez pas? Vous êtes fâchés parce que je vous dis ça? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre. 2 Pierre 2,12. C'est comme ça. Les fils du royaume, ces juifs dont Jésus parlait là, ils sont de cette race-là, c'est-à-dire de la race du serpent, du clan du serpent, de la postérité du serpent, de la semence du serpent. Et tous les gens qui descendent biologiquement d'Abraham ne sont pas d'Israël, ne sont pas de l'Israël de Dieu. C'est clair? Ça répond vraiment à la question qu'on pouvait se poser. Hein. C'est une question d'esprit. L'esprit de ce centurion était un esprit venant de Dieu. Et Jésus en a été émerveillé. C'était l'esprit le plus ouvert, le plus clair qu'il ait rencontré même dans tout Israël. On pourrait dire même plus clair que Pierre. Il a vraiment saisi, il a compris. Alors frères et sœurs, réjouissons-nous d'avoir en nous le témoignage du Saint-Esprit qui atteste de notre lignée. Et rappelons-nous que ce que la Bible appelle Israël de la chair, eh bien nous avons nous aussi l'église de la chair. Vous avez des... Il y a deux églises. Regardez dans Apocalypse 2 et 3, dans les sept âges de l'église, il y a deux églises. Il y a celle de la chair et puis il y a celle qui est spirituelle. Et qui c'est qui sera sauvé? Seulement la spirituelle, c'est-à-dire ceux qui auront tenu jusqu'au bout, qui auront écouté ce que l'Esprit dit aux églises. Et aujourd'hui, qui écoute ce que l'Esprit dit à l'église aujourd'hui? Alors, ce qu'il y a de terrible avec ceux de la chair, c'est que quand ils sont un peu instruits, ils se croient sages. Ils se croient sages et ils n'écoutent plus les recommandations de Dieu. Ou alors, ils veulent écouter les recommandations de Dieu, mais d'égal à égal avec Dieu. Ils ne veulent pas passer par les intermédiaires. Ils disent, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre eux, c'est Jésus, donc j'écoute Jésus, j'écoute. Mais Jésus a institué les ministères. Et les ministères doivent être approuvés visiblement. Alors ils laissent de côté les recommandations de Dieu, ils pensent savoir par eux-mêmes, c'est ce que la Bible appelle la folie de la sagesse. C'est de la sagesse qui est de la folie. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Leur sagesse ne leur profite pas et ils vont périr comme tous ceux que Jésus appelle les fameux fils du royaume dans Matthieu chapitre 8. Ils vont périr. Ce n'est pas que leur prédestination a changé en cours de route, non. Mais ils ont été semés sur la terre d'Israël, ou ils ont été semés dans l'église de Jésus-Christ, et puis ils ont mûri. Et comme ils ont mûri, on voit le fruit, ils manifestent leur fruit. C'est rien que ça. Maintenant, être instruit, ce n'est pas une mauvaise chose. Être instruit, ce n'est pas une mauvaise chose, si on écoute encore les recommandations de Dieu. Ce qui est grave, c'est quand on pense, je sais. Non, c'est pas comme moi, je sais. Et on n'écoute rien. Alors, ce que ce texte veut dire, c'est malheur à ceux qui se croient sages et qui ne savent pas qu'ils sont aveugles, misérables, pauvres et nus. On en revient à l'Odyssée. Ce que ce texte signifie, c'est qu'ils sont aveugles parce qu'ils ne veulent pas voir et ils ne veulent pas voir parce qu'ils ne peuvent pas voir, parce qu'ils ont été faits comme ça. Pharaon, il entendait la voix de Moïse qui disait « Laisse sortir mon peuple ». Il voyait les miracles, il voyait les prodiges, mais il ne pouvait pas se soumettre parce que Dieu endurcissait son cœur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, de même, malheur aux sourds qui ne veulent pas entendre parce qu'ils périront. Mais peuvent-ils entendre? Non. Pourquoi? Parce que même si vous leur criez dans les oreilles, même si vous leur faites répéter les choses que vous leur dites, ils ne peuvent pas les comprendre. Parce que Dieu ne veut pas. C'est terrible. De même, malheur aux incirconcis du cœur, car la connaissance de leurs iniquités les frappera au dernier jour. C'est ce qu'on voit écrit. C'est comme ça. Et il faut que nous soyons au fait de ces choses-là. Parce que quand on reviendra pour régner avec Jésus-Christ, nous ne pourrons pas nous payer le luxe d'être des sentimentaux. Nous devrons avoir acquis le caractère de roi, plutôt de reine, puisque nous serons l'épouse de Christ. Je vous recommande un film. Très souvent, je vous recommande des films. Là, je vous en recommande un. Ça s'appelle « Le discours du roi ». Regardez ce film et pensez, voilà, moi, un jour, je vais régner. Vous allez voir, ce n'est pas une petite affaire. Vous avez intérêt à vous préparer déjà maintenant pour avoir un caractère de roi. Ne dites pas que ce message que je vous donne est dur, parce qu'en disant cela, vous insultez la vérité. Faites attention. Les justes, c'est-à-dire les justifiés, ils ne craignent pas la parole de Dieu. Et même si ça les reprend, ça ne les ébranle pas, parce qu'ils aiment la vérité. Ils disent « Oui, Seigneur, tu as raison. » Dieu ouvre à ceux qui frappent, nous dit la parole de Dieu, mais les sages, ceux qui sont boursouflés à cause de leur science et de leur richesse intellectuelle et que sais-je, ceux-là, Dieu les méprise profondément. Et à moins qu'ils ne rejettent toute cette fameuse richesse et qu'ils se considèrent comme des insensés devant Dieu, ils ne seront pas sauvés. Vous en avez qui sont comme ça boursouflés de science et de connaissances et tout ça, et qui font les importants. Puis un jour, ils sont brisés, ils se repentent, ils deviennent les plus humbles. Ils montrent par là qui ils étaient. Vous voyez? Mais vous en avez, ils meurent dans cet état-là, d'orgueil spirituel, de moi je sais tout, etc. Mes frères et sœurs, sondez les Écritures, laissez Dieu sonder votre cœur et ne vous lassez pas de faire le bien, ne vous lassez pas de vous confier en l'Éternel, relevez la tête, Amen. Merci Seigneur pour ce message, mon Dieu je te prie pour que cela soit clair, que cela fortifie le cœur de chacun et de chacune, que cela aide chacun et chacune à prier pour ceux qui ne sont pas encore convertis, mais à prier non pas avec des sentiments, mais à prier pour que ta volonté soit faite.